Chers auditeurs de Radio Bulle, bonjour. Je suis avec Brigitte Proust, Diane Biaou, Christelle Aurencin, Marie-Thérèse Planet, qui présente depuis déjà quelque temps Bulle et Fourchette. Donc des retraités, sauf Diane qui est chef de projet et Christelle qui est diététicienne et nutritionniste, qui enrichit donc cette conversation de mots pas trop techniques.
On essaie.
C'est assez clair finalement pour tout le monde.
J'espère.
Et c'est dans cette chronique, donc la numéro 7 déjà de Bulle et Fourchette, eh bien nous allons parler des idées reçues en alimentation. Mais auparavant, Diane va vous parler un peu de ce projet plus globalement.
Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Diane Biaou, chef de projet au sein de l'association Silver Fourchette. On fait de la sensibilisation et de la prévention autour de l'alimentation pour les plus de 55 ans. On essaie de travailler sur le plaisir de manger, de donner des bons conseils pour améliorer un petit peu ses habitudes alimentaires. Ce projet, on a la chance de le mettre en place grâce au soutien de la CARSAT Aquitaine, qui s'adresse en fait aux aidants et aux seniors âgés, et qui leur permet de créer en fait une émission et 8 chroniques autour de l'alimentation. Donc tous les sujets qui nous intéressent autour de l'alimentation seront abordés, et on a la chance d'être accompagnée par Christelle Aurencin, pardon, qui est diététicienne à Agen, et qui va nous fournir un contenu un peu plus diététique et nous donner des conseils concrets sur comment améliorer notre alimentation au quotidien. Aujourd'hui, on va parler des idées reçues, donc je laisse tout de suite la parole à Marie-Thérèse et Brigitte.
Alors, bonjour. Je voudrais commencer cette chronique en parlant d'une idée reçue qui a vraiment la tête très dure. J'entends souvent dire que des féculents font grossir et qu'ils sont mauvais pour la santé. Qu'en pensez-vous, Christelle? Est-ce vrai?
Alors, pas du tout. Les féculents, effectivement, sont un groupe un peu banni suite au régime des années 90, où c'est qu'on enlevait tous les sucres et tout le gras. Sauf qu'on sait aujourd'hui que les régimes ont un effet yo-yo. Et on sait du coup que trop priver le corps sur un certain temps, il va reprendre ses droits de toute façon et on aura une reprise de poids associée. Donc l'objectif, c'est que les féculents soient plutôt un allié. Il faut savoir que les féculents, c'est le seul carburant lent de l'alimentation. Donc c'est ce qui sert à donner une énergie à diffusion lente, c'est-à-dire le petit déjeuner, vous prenez un féculent qui vous donne de l'énergie jusqu'à midi. À midi jusqu'au soir et le soir jusqu'au matin. Si vous enlevez les féculents, vous avez faim à chaque 2 heures après le repas, dès que la digestion, dès que l'estomac est vide. Donc en fait, ça encourage les grignotages. Donc des féculents, les supprimer effectivement, conduit à des grignotages, ne vous fera pas perdre du poids. Par contre, si vous en consommez trop et que vous ne dépensez pas ce carburant, il est clair que vous allez quand même prendre du poids. Donc à juste dose, il faut les consommer et pour ça, on écoute ça. Satiété, ou en tout cas on essaie de l'écouter.
Merci.
Même quand on est gourmande alors. Hein.
Oui, surtout quand on est gourmande, on l'a vu sur une précédente chronique sur le sucre, les féculents aident justement à ne pas grignoter. Parce que effectivement, si vous n'avez pas faim entre les repas, vous avez moins envie de grignoter. C'est vrai. Ils sont capitaux pour ça.
Et alors, est-ce qu'on peut consommer des fruits à volonté par exemple?
Alors, on rappelle que les fruits apportent des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, mais apportent aussi du sucre. Certes, du fructose, c'est pas du saccharose comme du sucre des biscuits, mais ils apportent du sucre, donc on ne peut pas les consommer à volonté pour cette raison, surtout par exemple pour les personnes diabétiques ou quand on souhaite, on reparle du poids, perdre du poids. Donc, on va être à 2 à 3 portions de fruits par jour.
D'accord, ouais, c'est bien ça, donc j'ai intérêt à faire attention. Et est-ce que je peux remplacer la viande par du fromage? Je ne suis pas une amatrice de viande, donc...
Eh oui, alors on a vu sur aussi la précédente chronique de l'équilibre alimentaire que la viande faisait équivalent au poisson, aux œufs, aux crustacés. Ça reste le groupe protéines animales et le fromage fait partie des produits laitiers. Donc remplacer par exemple 2 œufs par 100 grammes de fromage conduirait à consommer trop de sel. Trop de gras saturé, vous savez, le gras qui sature, vous vous rappelez ma Marie-Thérèse, le gras qui sature, qui est mauvais pour nos artères.
Oui, c'est très loin.
Donc on ne peut pas remplacer la viande par le fromage. Le fromage est un produit laitier qui va faire équivalence à un laitage ou un lait, alors que la viande fait équivalence aux œufs, aux poissons, aux crustacés.
D'accord, bon, je vais changer.
Et alors les œufs, est-ce qu'il faut limiter sa consommation d'œufs?
Alors, les gens, en général, sous-consomment les œufs. Hein. Les œufs, c'est des protéines écolo, hein, bonnes pour la planète. C'est des protéines de très bonne qualité, hein, de très bonne valeur biologique, qu'on appelle, complète. Donc, il faut en consommer 4 à 6 par semaine. On va travailler bien sur la qualité, parce que c'est une protéine peu chère. Donc, c'est important aussi de le valoriser en ce moment difficile en termes de coûts des courses alimentaires. Donc, c'est une protéine peu chère, qualitative. Donc, on va travailler les œufs fermiers de qualité plutôt que des œufs de batterie. Mais 4 à 6 par semaine, par personne, est une bonne quantité.
Est-ce que on doit manger moins avec l'âge ? Parce que souvent, on dit, plus on prend de l'âge, il faut manger moins parce qu'on a du mal à digérer.
On bouge moins.
Voilà.
On bouge moins aussi.
Alors, avec l'âge, nos besoins protéinés augmentent, en tout cas, et nos besoins énergétiques, si on a une pathologie, en général, malheureusement, avec l'âge, on a toujours un petit peu de pathologie plus ou moins inflammatoire, eh bien, on a besoin aussi un peu plus d'énergie. Donc, c'est une idée reçue complète de diminuer ces ingestes avec l'âge. Par contre, vous l'avez dit, Brigitte, on bouge moins. On va quand même toujours adapter son carburant, son alimentation à sa dépense. Donc, c'est sûr que on va être vigilant sur l'évolution du poids, qui va être le témoin majeur pour savoir si on mange trop ou pas assez. Mais il faut savoir que c'est une idée reçue de dire qu'on doit diminuer ses consommations. Et surtout, ses consommations en protéines. On sait, on l'a dit, à partir de 50 ans, la masse musculaire commence à diminuer. Si on n'entretient pas son corps en consommant des protéines, en pratiquant une activité physique régulière, raisonnée, raisonnable.
Alors, moi, je parlais de gourmandise tout à l'heure, donc je suis assez gourmande, donc je voulais savoir si on peut faire un 4 heures, comme on disait, une petite collation, et ce qu'il faut manger dans l'après-midi.
Alors, il y a pas, de toute façon, en alimentation, il n'y a pas de règle universelle, sinon ça se saurait, on mangerait tous la même chose. Donc, il y a des gens qui ont besoin de faire une collation, et il y a des gens qui n'en ont pas du tout besoin. Hein, tout à l'heure, j'ai vu un sportif, un joueur de rugby qui n'avait pas du tout besoin de faire une collation, et bien on a tout réparti sur les repas. C'est très individuel, et il faut respecter surtout le rythme de chacun. Donc, si vous avez besoin de faire une collation, Brigitte, pas de soucis, le matin, l'après-midi, quand vous voulez, mais ça va être des choses saines. Donc ça va être des fruits, ça va être un laitage, ça va être des fruits oléagineux, hein, des amandes, des noix en quantité raisonnable et toujours associé à une hydratation. N'oubliez pas de toujours boire entre les repas. Il faut étaler cette hydratation pour que le corps ne se déshydrate pas.
Boire de l'eau, bien sûr.
Voilà. Et surtout éviter les produits sucrés. Éviter les produits sucrés entre les repas qui vont conduire à une hausse de glycémie, du coup, petite inflammation dans le sang, dans le corps. Et donc, toujours consommer des choses peu sucrées entre les repas. Et si on doit consommer le carré de chocolat, le gâteau, on essaie de le consommer fin du repas.
Donc souvent on cuisine avec de l'huile et on dit que c'est gras, la cuisine est grasse. Mais alors est-ce qu'on peut le remplacer par le beurre ? Beurre demi-sel ou beurre allégé ?
Oui, alors on reprend, effectivement l'huile et le beurre sont dans le même groupe des matières grasses, mais on reprend un petit peu notre chronique initiale, la 1. Vous vous rappelez, Marie-Thérèse, on avait parlé du gras qui encrasse et le gras qui décrasse.
Oui, bon, c'est loin tout ça.
Alors le beurre, il faut imaginer le corps qui est composé de tuyaux. Hein, nos artères, nos veines, on est fait de tuyaux. Le beurre, vous mettez du beurre dans un tuyau, le tuyau se
bouche.
Hein, oui. Il se bouche. Vous mettez de l'huile dans un tuyau, l'huile glisse, d'accord ? Sur le corps, c'est pareil. Il faut travailler des bonnes graisses pour ne pas encrasser nos tuyaux, ne pas encrasser notre corps. Donc, on va privilégier les huiles et en aucun cas, il faut les supprimer. C'est un besoin de l'organisme de consommer les huiles. Et d'après vous, lesquelles ?
Bah, je pense l'huile d'olive.
Oui, l'huile d'olive pour sa richesse en polyphénol, oméga 9, mais aussi ?
L'huile de lin ?
Une huile, effectivement, Marie-Thérèse, riche en oméga 3. Donc, en huile oméga 3, on a l'huile de colza, de noix, de lin, de cameline, qui sont connues. Et donc, dans notre journée, de façon optimale, il faudrait consommer une huile d'olive et une huile oméga 3 dans les repas.
Bon, bah, j'ai plus qu'à acheter une huile d'oméga 3.
Dans certains plats que je cuisine, je mets de l'huile de sésame en fonction de ce que je fais.
Oui, alors elle est intéressante pour le goût, mais pas tant pour la composition des acides gras. Ouais. Mais bon, ponctuellement. Pour le plaisir.
Ah oui, c'est clair. Alors, le poisson, est-ce qu'il faut limiter sa consommation de poisson ?
Et oui, alors on a malheureusement des océans pollués et les poissons peuvent être contaminés par du coup, leur environnement, par des dioxines, par des PCB, le méthylmercure. Donc on a des consommations cibles entre 2 à 4 fois par semaine du poisson, en associant 1 à 2 fois par semaine du poisson gras. Le poisson gras, vous vous rappelez, il est riche en oméga 3. Hein, pour notre cerveau, limiter l'apparition des démences, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la peau, la vision. Donc ces oméga 3, ils sont capitaux. Donc 1 à 2 fois par semaine des poissons gras. Vous vous rappelez les poissons gras ?
Macro.
Saumon.
Et puis alors là, je ne sais pas.
Sardines. Oui, voilà. Harengs, pichards, voilà. Et saumon et truite de préférence sauvage. Et après, les poissons blancs et les crustacés, pas de souci. Ce qui est conseillé, c'est de varier les espèces et les lieux d'approvisionnement. Ne pas trop consommer l'anguille, qui est du coup assez contaminée comme poisson. Et puis, si on est une femme enceinte ou un enfant, les recommandations sont encore un peu plus strictes et très codifiées. Voilà.
Oui, d'accord. Donc, moi qui ne cours pas après le poisson, alors là, on ne va pas m'aider. Par contre, quand on dit que manger une soupe et un yaourt, est-ce que ça suffit ? Est-ce vrai ou pas ?
Le problème, c'est que soupe et yaourt, on n'a pas de protéines, ou très peu. Hein. Dans le yaourt, on a 4 grammes de protéines, donc on a très peu de protéines dans son repas. Donc, en général, ça conduit quand même à une dénutrition protéinée de manger sans protéines le soir, surtout quand on avance en âge parce que les portions se réduisent à midi et le soir. D'accord ? Donc il faut essayer quand même d'avoir une protéine. La soupe, c'est un aliment piège pour moi. Pourquoi ? Parce que ben, quand on mixe une soupe, on casse les fibres. D'accord ? Et vous savez que les fibres sont importantes pour l'équilibre corporel. Donc soit on essaie de ne pas la mixer, soit on essaie de rajouter un petit légume à mâcher, une salade d'endives, un petit complément de légumes. D'accord ? Et puis, si on mixe un féculent, ben c'est un sucre rapide, donc il ne sera pas trop efficace dans le temps. D'accord ? Donc on essaie plutôt de consommer, si on souhaite une soupe, si elle est mixée, on rajoute une salade d'endives avec dedans du thon ou un œuf dur, et le laitage, et là on est parfait.
D'accord. Bon, bah, on va essayer. C'est pas gagné, hein ?
Changer quelques habitudes.
Voilà.
Je retiendrai que finalement les œufs sont très importants, qu'il faut en manger un peu plus, ça tombe bien. Bah, je vais les faire à la poêle parce qu'il faut de l'huile aussi.
Ouais. De préférence crue par contre, je suis désolée, mais l'huile est meilleure crue. Ouais, ouais. Donc il vaut mieux les cuire gober. Sans trop d'huile. Oui, les gober.
Les gober, d'accord.
À la bon. Coque, c'est peut-être mieux.
Il faut avoir des poules.
En tout cas, bah, merci beaucoup Brigitte, Diane, Christelle, Marie-Thérèse. Et on se retrouve probablement très bientôt pour une nouvelle chronique, qui sera d'ailleurs la dernière, il me semble, sur la relation aidant-aidé. Et je pense que c'est une chronique qui va intéresser beaucoup de monde. En tout cas, merci à toutes et à très bientôt.
Merci.
À bientôt.